Merci d'écouter Beurre FM, il est 10h.
Speak Uni, l'émission interreligieuse avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Ravi de vous retrouver comme tous les samedis sur Beurre FM pour parler de spiritualité, culture et harmonie. Speak Uni, une heure pour déconstruire ensemble les préjugés avec Yacine Ilmi. Bonjour Yacine.
Bonjour à tous.
Voilà, je rappelle que vous êtes chef d'entreprise dans le numérique et que vous avez fondé l'association OSES, qui est un institut de formation qui s'adresse aux cadres religieux, notamment aux imams.
Tout à fait.
Catherine Escrive est là aujourd'hui. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Vous revenez, hein. Vous êtes journaliste multimédia et réalisatrice de documentaires.
Voilà, documentariste.
Documentariste. Mm-hmm. C'est bien, je vais le garder. À côté de vous, c'est Aïcha qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour Philippe.
Aïcha Boussena Mounir, enseignante et fondatrice des ateliers ATFAL. Ce sont des ateliers ludo-éducatifs pour enfants et pour les adolescents pour apprendre l'islam de manière ludique.
Tout à fait.
Bienvenue sur Beurre FM. Marine Quenin est avec nous. Bonjour Marine.
Bonjour.
Vous êtes déléguée générale de l'association Enquête. On parlera de vous dans un instant. Bienvenue.
Merci.
Elisabeth Crémeux. Bonjour. Crémeux.
Mieux.
Mieux. Bienvenue. Prenez votre micro. Approchez-vous. Voilà.
Oui.
La présidence de Acora. Acora, c'est apprendre, comprendre, respecter et aimer. Vous êtes la bienvenue. Je vais vous demander de bien parler dans votre micro, parce que vous allez voir, pour qu'on vous entende bien.
Eh bien, c'est tout à fait ça, oui. C'est pour apprendre la laïcité aux personnes qui arrivent en France.
Parfait. Et puis, Révital Berger Schloman est avec nous. Bonjour.
Bonjour,
et bienvenue, directrice de Talmud Torah.
Voilà.
Bon, je vous explique. On démarre toujours cette émission par un mot qu'on a appris en la préparant. Yacine.
Écoutez, on a un mot qui est simple, que peut-être tout le monde connaît, mais... On ne connaît pas forcément le sens, et je me suis inspiré du site Enquête. Donc Marine va en parler. Si vous allez sur le site internet Enquête, il y a un atelier qui s'appelle une page qui s'appelle Documents Atelier Débat, et on parle du mot conviction. Donc le mot conviction, c'est un mot qui est utilisé aujourd'hui pour parler à la fois des convictions religieuses qui sont chrétiennes, juives, musulmanes, bouddhistes, hindouistes, et des convictions non religieuses, athées, agnostique. Donc un nouveau mot aussi qu'on pourra intégrer une prochaine fois, agnostique, ou bien on pourra en demander à nos participants.
Bien, bah, quelle définition vous donnez à ce mot agnostique, Catherine? Tiens, je vois que ça vous inspire beaucoup.
Ne me faites pas commencer.
Non, je vous trouvez. Elle est Elisabeth.
Je laisse ma place à Elisabeth.
Elisabeth.
Agnostique, je dirais qu'il s'interroge sur la religion.
Aïcha.
Pareil, qui n'exprime pas clairement une foi précise, mais qui n'est pas fermée non plus.
Ça se précise, hein, pour la définition. Alors, qui voudrait préciser un peu plus? Révital?
Je voudrais ajouter aussi bien, je ne suis pas spécialiste de la dictionnaire française, que on parle de quelqu'un qui a des questions identitaires, qui a la curiosité et l'inquiète de faire cette recherche.
Catherine, maintenant que tout le monde a parlé.
C'est pas étranger à. Enfin, je pense que ça ne signifie pas indifférence, en tout cas. On peut s'interroger, ne pas se positionner, mais également s'intéresser à ces sujets-là.
Si on revient sur des questions d'étymologie, on est avec le a privatif, une racine grecque, gnosis, qui veut dire donc sans connaissance. Donc c'est une personne qui, estimant que ce domaine du religieux ou de la foi ne relève pas du connaissable, ne se prononce pas sur une conviction, ne se dit pas croyant, ne va pas se dire athée, mais se dit qu'il suspend son jugement parce que ça ne relève pas du connaissable.
Mmh. Donc une personne agnostique, c'est une personne qui ne se prononce pas sur la question de l'existence ou non d'un ou de plusieurs dieux.
Mais s'il ne se prononce pas, est-ce que ça l'intéresse ou pas?
Ah bah oui, ça
peut, oui, voilà.
À partir du moment où vous dites agnostique, c'est déjà que vous vous êtes posé la question.
D'accord, donc vous vous positionnez. On va parler du fait religieux expliqué aux enfants. On va commencer par vous, Marine, puisque tout part de vous, tiens, par même de votre... Non, tout part d'une interrogation de votre fille Agathe.
Vous connaissez plein de choses, oui. Enquête est née il y a 8 ans, suite à des questions de ma fille qui est revenant de l'école. À plusieurs reprises, me posait des questions qui m'ont un peu surprise, où elle m'a expliqué une fois qu'elle était en vacances de la Poussin, qu'elle était super contente, ou une autre fois extrêmement inquiète parce que son petit copain Elias avait mangé du porc par mégarde à la cantine. Et je me suis dit qu'elle aurait du mal à grandir et comprendre le monde dans lequel elle évoluait si elle n'avait pas les moyens de comprendre toutes ces manifestations du religieux et les décoder.
Mmh.
Elle dit, coup, je suis allée regarder les programmes scolaires, convaincue qu'elle allait aborder ces questions-là à l'école pour me rendre compte que c'était dans les programmes, mais que c'était pas souvent fait.
C'est-à-dire que c'était pas... C'était pas expliqué aux enfants, quoi.
Bah, en fait, avec un sujet qui est évacué par les... Enfin, à l'époque, qui était évacué par une grande partie des enseignants, soit par opposition de principe, on a sorti la religion de l'école avec les lois scolaires de la fin du 19e, soit par inquiétude à aborder ces sujets. J'y connais pas grand-chose, qu'est-ce que je vais me lancer? Peur des enfants et de leurs questions. Une grande, grande peur des parents. Qu'est-ce que je fais s'ils débarquent et qu'ils me disent que j'ai pas abordé ces questions-là au sein de l'école laïque? Et donc un sujet qui était dans des programmes relativement chargés était, ouais, encore, souvent évacué, alors même que c'est un sujet absolument grandiose à aborder à l'école dans le champ des connaissances.
D'accord. Et donc, de ces questions de votre fille, qu'est-ce que vous en avez fait ?
Créer une association qui s'appelle Enquête, qui a maintenant donc 8 ans et qui travaille pour aborder, aider les enfants à aborder ces questions, cette éducation à la laïcité par l'enseignement des faits religieux. Donc passer par une compréhension du religieux dans le champ des connaissances, pour mieux comprendre ce qu'est la laïcité et ce à quoi elle sert.
Et alors, pourquoi vous parlez de la laïcité, finalement ?
Parce que j'ai du mal à... Enfin, c'est difficile de...
Expliquez-nous.
C'est difficile de comprendre ce qu'est la laïcité si, à un moment ou à un autre, vous évacuez ce qu'elle gère. C'est-à-dire qu'elle gère... C'est un principe politique d'organisation du religieux dans la société. Et donc, comment la donner à comprendre ? Rentrer par du positif pour que les enfants comprennent ce à quoi elle sert et qu'ils comprennent son intérêt, si vous, à un moment ou à un autre, vous ne parlez pas du religieux. Donc, notre objectif, c'est d'aborder avec les enfants et des enfants de fin de primaire, c'est-à-dire un âge où on oublie souvent qu'ils posent beaucoup de questions, que ça les intéresse, ça les passionne, ces sujets-là, à partir du jeu, parce qu'on les fait jouer, ce qui est un bon moyen de ne pas braquer,
Du jeu, parce que vous avez créé un jeu, en fait.
Tous nos outils, en fait, sont à partir de jeux. C'est de pouvoir rentrer par le jeu, parce que ça permet aussi, quand on joue, on parle beaucoup, et que toute notre pédagogie, elle est celle de leur envoyer des questions, de les amener à préciser les mots qu'ils utilisent, les interprétations qu'ils donnent, et que quand on joue, on parle beaucoup. Et donc, c'est un bon moyen d'entrer.
Là, Yacine, vous présentez... Alors, parce qu'à la radio, ça ne se voit pas. Qu'est-ce que vous présentez ?
Je présente un des outils et des jeux qui sont disponibles et qu'on peut acheter aussi dans les supermarchés dans les librairies, qui s'appelle le Grand Quiz des Religions. Donc, croire et savoir... à destination des enfants et des plus grands. D'ailleurs, il y a des questions qui peuvent, juste en tirant une question au hasard, le culte, je tombe sur la Torah et le principe. Qu'est-ce que la Torah ? Donc, une des réponses, la Torah est écrite en hébreu. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux ? La Torah contient l'enseignement de Dieu. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux ? Etc., etc. On a des questions sur toutes les religions, enfin, les principales religions, je crois, dans ce quiz. Donc, je vous invite à aller regarder le site Enquête.
Enquête.asso.fr.
Bien. Et pourtant, Enquête n'est pas un projet de dialogue interreligieux. Pourquoi ?
Ah non, surtout pas. C'est-à-dire que qu'on soit sur du dialogue interreligieux, enfin, ce qui relève, c'est des personnes qui viennent avec une conviction particulière et qui vont échanger à partir de leur positionnement. Ce qu'on aborde, nous, c'est par le biais de la connaissance. C'est-à-dire que l'éducateur ou l'enseignant qui va l'aborder ne va pas venir comme porteur d'une conviction, mais comme éducateur pour pouvoir apporter des connaissances aux enfants. Et donc, on reste dans le champ de la connaissance et pas dans le champ de la croyance ou du témoignage.
Bien. Alors déjà, est-ce que les enfants sont réceptifs aux faits religieux, Rébital ?
Grande question.
Est-ce que ça les intéresse ?
C'est l'intéresse, peut-être leur premier rencontre avec moi, avec le MJLF, avec la communauté pluraliste libérale de judaïsme en France, c'est qu'ils sont arrivés pour la raison que leurs parents, leurs grands-parents, ont apporté à notre maison. Mais ça, c'est la grande responsabilité. Je continue à, voilà, que ma camarade a dit, d'offrir les enfants un espace ouvert, très ludique, et que créer cet intérêt par rapport de leurs questions identitaires. Je trouve que chaque personne agnostique, ou aussi quelqu'un qui a grandi dans une maison très orthodoxe, il est toujours curieux. Et cet intérêt, on trouve le moyen comment communiquer et comment développer cet intérêt parmi eux. Et je trouve en effet que si vous avez des enfants qui, à l'âge aussi 16, 17, continuent après leur célébration de leur bar bat mitzvah, ils continuent et très impliqués dans notre maison, ça veut dire qu'ils sont vraiment très intéressés. Et ils sont intéressés aussi par la raconte interreligieux avec les autres enfants.
D'accord. Donc, pour vous, oui, ça intéresse les enfants. Oui. Aïcha, est-ce que ça intéresse les enfants ? Ou est-ce que ça les gonfle, ou est-ce que c'est une punition, ou c'est...
Quand les enfants participent par exemple à nos ateliers, c'est indispensable de leur demander est-ce que tu souhaites être là. C'est très important. À partir d'un certain âge, moi j'estime qu'à partir de 7 ans, c'est important de leur demander.
Parce que ça peut, souvent, vous savez, ça, c'est un peu le souhait des, plus des parents que le fait des enfants. Hein, donc, oh là là, on m'a inscrit là cette année, ou pas.
Voilà. Alors il y a deux façons de faire. C'est soit leur dire est-ce que tu souhaites être là. Donc généralement si l'enfant n'a pas envie d'être là, il repart. Ou alors lui dire t'es venu là, c'est papa qui t'a proposé ou maman. Je te propose de tester. Alors à ce moment-là on fait de l'éveil à la foi. On explique un petit peu qu'est-ce que c'est que la foi musulmane, en quoi ça consiste, c'est quoi le Coran, etc. Et généralement des enfants qui n'étaient pas très très intéressés pour venir finalement accrochent. Donc c'est important en fait d'impliquer l'enfant avant même de respecter un certain programme ou quoi que ce soit, c'est de l'impliquer, de lui faire aimer et c'est
de susciter son intérêt.
Absolument. C'est ça ? Absolument.
Catherine, est-ce que ça intéresse les enfants ?
Alors, moi ce que je voulais dire, je connaissais pas Marine Quenin physiquement mais j'ai produit un documentaire qui s'intitule Faut-il renforcer l'enseignement du fait religieux qui est passé en septembre et j'ai pu aller sur le terrain avec une animatrice de l'association Enquête dans une école publique. Et ce qui m'a un petit peu impressionné en préparant ce documentaire, c'est qu'en fait, il y avait un véritable tabou autour de l'enseignement du fait religieux dans les écoles publiques et qu'il y a eu finalement deux peurs qui ont été exprimées. Du côté des éducateurs qui avaient peur d'être dans un phénomène de
prosélytisme,
prosélytisme, voilà. Et puis, peur de la réaction des parents également, qui auraient pu dire, mais enfin, vous leur enseignez des faits religieux, qu'est-ce que vous allez leur transmettre sans que nous maîtrisions. Et en tant que documentariste, hein, ce qui m'a impressionné, c'est la difficulté à obtenir des autorisations pour enregistrer des enfants en situation d'apprendre sur le fait religieux. Ça arrive assez rarement qu'on n'ait pas les autorisations. Et là, je crois que ça dit quelque chose de cette peur aussi, de la transmission du fait religieux.
Elisabeth Crémieux, est-ce que ça intéresse les enfants ?
Ah oui, je suis convaincue que ça intéresse les enfants, parce que je connais plusieurs enfants de familles pas du tout religieuses qui demandent à aller au catéchisme ou suivre un enseignement de Talmud Torah. Je suis sûre que ça intéresse les enfants. Mais je voudrais poursuivre ce que dit Catherine, c'est que c'est très difficile pour les enseignants d'enseigner le fait religieux. Il faut prendre conscience. C'est nécessaire, mais c'est extrêmement difficile.
Mais pourquoi c'est difficile ? Pourquoi ? Parce que c'est par objectivité,
Il faudrait qu'on définisse le fait religieux. Enseigner le fait religieux, ce n'est pas enseigner la religion. Mais on ne peut pas enseigner le fait religieux. Le fait religieux, c'est par exemple les croisades. C'est un fait en grande partie religieux. Et ce n'est pas exactement la religion. Et enseigner la religion, c'est quelque chose qui a été... comment pourrait-on dire, confié par l'État français aux prêtres, aux pasteurs, etc., lors des lois laïques de Jules Ferry. On avait laissé une journée de la semaine libre pour que les enfants puissent aller suivre.
À l'époque, c'était le mercredi.
C'était le jeudi d'abord.
Jeudi d'abord, après le mercredi, puis maintenant, on ne sait plus.
Voilà. Alors, enseigner le fait religieux, moi, quand j'étais jeune professeur, ça ne se faisait pas. On donnait des rudiments sur les religions et on en restait là. Maintenant, on essaie de développer cet enseignement, mais c'est difficile. Ça vient s'ajouter à des programmes qui sont déjà des programmes
lourds,
chargés.
Ouais, bien sûr.
Ça touche à des questions extrêmement, je dirais, sensibles. Les enseignants n'ont pas envie de blesser leurs élèves. Ils n'ont pas envie qu'entre les élèves se produisent des contestations, des discussions. C'est beaucoup chargé la barque des enseignants, je prends la défense de mes collègues, que de leur demander d'enseigner le fait religieux.
D'accord. Donc ce n'est pas apprendre la religion aux enfants.
Alors la religion est au programme, puisque le judaïsme est enseigné en sixième, et le christianisme et l'islam sont présentés. Je dirais qu'ils ne sont pas enseignés, ils sont présentés en classe de cinquième, assez rapidement. Le fait religieux, c'est un petit peu différent.
Bon, on a une heure pour en parler, c'est Spicuni jusqu'à 11h sur Beurre FM.
Spicuni revient dans un instant.
10h-11h, Speak Uni, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Speak Uni, c'est en anglais, c'est parler ensemble. Si c'est en français, c'est spiritualité, culture et harmonie jusqu'à 11h sur Beurre FM. On a une heure pour déconstruire ensemble les préjugés. Alors Yacine, je ne sais pas si vous avez vu, on a un casting de rêve aujourd'hui. Hein.
Écoutez, c'est hein, le rêve
100% féminin. Catherine Estrive est avec nous, journaliste et documentariste. Aïcha Boussema Mounir, enseignante et fondatrice des ateliers d'ATFAL, hein, sont des ateliers ludo-éducatifs pour les enfants et les ados pour apprendre l'islam de manière ludique. Marine Quenin est avec nous, déléguée générale de l'association Enquête. Elle est venue avec notamment deux outils pédagogiques qui sont développés par Enquête. Il y a notamment le quiz des religions et puis vous l'avez, l'arbre à défi dont on parlera tout à l'heure. Elisabeth Crémieux est avec nous, présidente de Acora, apprendre, comprendre, respecter et aimer. Et puis Révital Berger-Schloman est directrice de Talmud et Torah et elle est avec nous également. Talmud Torah, c'est ça ?
De MJLF.
De MJLF, qui veut dire ?
Ça veut dire qu'il y a déjà l'affiliation libérale, pluraliste ici en France. Et notre Talmud Torah, c'est une communauté qui a deux branches à Paris, à Vaugrenel et à l'Est, à Saint-Moulin, et que porte et qui enseignait, si c'est les enfants, si c'est les adultes, autour de valeurs pluralistes de judaïsme.
Alors, Marine Quenin, je vous ai vu réagir sur la définition du fait religieux. Donc, qu'est-ce que c'est que précisément ce fait religieux à expliquer aux enfants ?
Si je le fais très simple, ça fera bondir certains universitaires, mais c'est parler des religions, pas dans un champ de transmission de foi, mais dans un champ de connaissances. Si je vous donne un exemple concret, c'est parler de... On peut parler de Jésus, par exemple, à l'école, à partir du moment où on ne va pas dire Jésus est Dieu fait homme chez les chrétiens, mais que Jésus, pour les chrétiens, est Dieu fait homme, que pour les juifs, c'est un juif qui a mis un peu le bazar, que pour les musulmans, c'est un prophète cité dans le Coran qui n'est pas Dieu, mais qui est un prophète, et que donc on va pouvoir apporter des connaissances sur la personne de Jésus, donc avoir des connaissances sur des croyances pour leur donner des outils pour comprendre le monde. Vous emmenez des enfants dans une salle Renaissance d'un musée, si vous leur donnez pas les clés, ils ne comprendront pas pourquoi il y a un monsieur sur tous les tableaux avec les bras en croix, un truc au-dessus de la tête.
D'accord. Enquête aborde donc les religions par la connaissance et non par la croyance.
Je rajouterais une deuxième chose, c'est que, pour revenir sur ce que disait Elisabeth, que certes en France on a fait le choix de ne pas avoir de discipline. On n'a pas un enseignement de religion ou de fait religieux comme discipline en tant que telle, ce qui va être le cas dans un grand nombre d'autres pays, notamment européens. Oui. On a choisi de l'aborder à travers les autres disciplines et on peut le faire sans rajouter quelque chose. C'est-à-dire qu'avec cet enseignement-là, vous pouvez faire du français, quand je vous parlais d'étymologie tout à l'heure, vous pouvez faire de l'histoire, vous pouvez faire de l'histoire des arts, vous pouvez faire des SVT quand on travaille sur les calendriers, comment on compte le temps, la rotation des planètes, c'est des SVT, vous pouvez faire des arts plastiques. Je connais même des enseignants qui ont fait des maths parce qu'ils ont fait de la numération à partir des calendriers différents. Donc on peut aborder ce sujet-là au travers des autres disciplines. Et ce n'est pas un enseignement de religion parce que ça n'a pas lieu d'être à l'école publique. En revanche, c'est un enseignement de connaissances sur les religions.
Mmh. Mais les outils que vous développez s'adressent à qui, vous ?
Alors en priorité, si on a à choisir, aux enseignants du premier degré. Donc des enseignants d'école élémentaire qui vont par ce biais-là aborder leur programme, parce que les faits religieux sont dans les programmes, dans le socle commun et dans les différentes disciplines, et pour pouvoir le traiter dans un cadre où on va aussi les rassurer, parce que j'entends les inquiétudes, ils sont inquiets, c'est leur montrer comment on peut le faire, comment ils vont pas se retrouver en danger, comment ils peuvent tenir leur position aussi de neutralité, à la fois une obligation légale, mais qui a un intérêt pédagogique d'être neutre sur ces questions-là.
Quelles sont les questions ? Enfin, est-ce qu'on aborde le fait religieux avec des enfants de la même façon qu'on le ferait avec des adultes ? Ou alors, c'est différent comme enseignement ?
Moi, je pense que la pédagogie est la même. C'est-à-dire que c'est des pédagogies du questionnement, si vous voulez les faire avancer, que ce soit un adulte ou un enfant, dans leur réflexion, il faut leur envoyer des questions sur les mots qu'ils utilisent, les interprétations qu'ils donnent, qu'elles soient naïves à côté de la plaque, parfois choquantes. Et après, vous allez être dans des niveaux de complexité qui ne sont pas les mêmes selon les âges.
Révital.
Je voudrais vous donner un exemple qui est un exemple excellent et que vous connaissez très très bien déjà. C'est le site qui s'appelle eTalmud, hein, un besoin qui était évoqué parmi les éducateurs, déjà les éducateurs pluralistes, mais aujourd'hui il y a pas mal de communautés juives aussi orthodoxes qui sont intéressées. Un site qui était développé pour les parents, pour les professeurs et pour les enfants qui enseignaient le judaïsme. Avec la compréhension déjà de cet questionnement identitaire qui liait avec les enfants, avec leurs parents évidemment, avec leurs grands-parents et avec le professeur. Et cette question, comment transmettre, on n'a pas utilisé encore le mot transmission, comment transmettre si c'est les valeurs religieuses, si c'est aussi des histoires. Hein. Il y a un enfant qui me dit, Revital, ces histoires de la Bible, hein, sérieusement, hein, c'est pour peut-être c'est pour les adultes, mais moi, comme un enfant, j'ai déjà beaucoup de questions par rapport à ça. Cette site donne-nous les utiles de continuer cette discussion et cette interrogation avec les enfants. Et c'est un site qui était développé par une compagnie qui travaille aussi avec vous sur voilà, des autres sites et que je trouve qu'aujourd'hui, pour les adultes, parfois, les questions sont beaucoup plus évidentes que pour les enfants. Les enfants sont curieux. Ils viennent chez nous avec cette point d'interrogation qui concerne leur identité et que petit à petit, ils trouvent déjà l'amitié avec des autres enfants. Maintenant, pour beaucoup de parents, ce n'est pas leur place peut-être au travail ou avec les autres parents à l'école de parler de leur identité religieuse. Et ça veut dire que c'est plus difficile parfois pour les adultes. Et ils sont curieux. Ils viennent chez nous aussi.
Révital, les enfants disent facilement quand ils ne savent pas. Et les adultes ont souvent honte de ne pas savoir.
Oui.
Et ils ne posent pas forcément les questions, les adultes. Ils font comme s'ils savaient, mais en fait, ils ne savent pas. Et ce sont les enfants, quand ils leur disent « Et pourquoi ? Et pourquoi ? Et qu'est-ce que ça veut dire ?» qui mettent les adultes face à leur inconnaissance.
Oui, mais ça veut dire en effet que pour les parents, c'est qu'ils ont beaucoup plus à charger avec ces questions parce qu'ils ont l'obligation de transmettre aux enfants à la maison. Et comment on va le faire sans connaissance ?
Et du coup, dans votre travail aujourd'hui avec les enfants, est-ce que vous distinguez ou vous différenciez le savoir et le croire ? Vous travaillez avec eux sur ces deux notions ?
Je pense que ça dépend.
Aïcha.
Oui, ouais. Ça dépend beaucoup en fait de à qui on s'adresse. Puisque par exemple, moi dans mon métier, je peux m'adresser à des enfants qui sont une classe qui est 100% musulmane. Donc les parents sont musulmans, on est dans une structure associative musulmane. Donc là en fait, on est clairement dans la foi. On n'est pas. Alors, même si on est dans la foi, ça reste des enfants. Donc il y a l'enseignement également. L'enseignement, les connaissances, le côté je vous apporte des connaissances aussi. Après, si on est dans une structure haute qui est plus neutre, là à ce moment-là, c'est plus le fait religieux à ce moment-là. C'est plus la religion expliquée. Donc je pense que ça dépend, en tout cas pour ma part, de...
Du cadre, tout à fait.
Je voulais juste apporter ma vision de terrain, puisque j'ai pu enquêter pendant 3 ou 4 mois sur le terrain par rapport aux enseignants. Donc j'ai l'impression que quand les personnes présentes ici s'expriment, elles arrivent dans l'univers de l'enseignement pour apporter un savoir transmettre. Vous n'êtes pas directement des professeurs. Et loin de moi l'idée, Elisabeth Crémieux, de vouloir... attaquer le corps professoral. Mais ce qu'on a pu observer, nous, sur le terrain pendant notre enquête, c'est un déficit de formation chez les enseignants du côté du fait religieux, souvent une envie d'être formés, mais malheureusement, un déficit qui les empêche de prendre la parole. Et souvent, les enseignants nous ont dit, mais nous, on se retrouve devant une classe de 30-35 élèves. Il y a des polémiques dans tous les sens dans la société contemporaine et on ne veut pas prendre le risque de répondre parce qu'on ne se sent pas suffisamment fort. Et moi, je crois qu'il y a un vrai sujet sur la formation des enseignants. Il y a des gens qui militent là-dessus, comme Éric Vincent, par exemple, qui est chercheur et qui prône la mise en place d'une science des religions à la française, comme ça peut se faire au Canada. Et moi, je crois qu'il faut quand même s'interroger sur la formation des enseignants.
Alors, Aïcha, vous vouliez réagir et après Elisabeth. Oui.
Je voulais juste te dire, en fait, avec l'évolution de la société, on se retrouve... en fait, si on veut enseigner le fait religieux aux enfants, c'est indispensable de passer par d'autres sciences, comme la sociologie. Par exemple, quand j'enseigne l'islam, en fait, je me rends compte qu'il y a aussi la question de l'identité, qui je suis. Est-ce que je suis musulman? Est-ce que je suis français? Est-ce que je suis d'origine marocaine? Donc, en fait, c'est indispensable de pouvoir allier d'autres sciences pour pouvoir enseigner. On n'est plus dans le théologien ou plutôt la personne qui a le diplôme de sciences religieuses et qui est là juste transmettre ça comme ça. Mm. C'est beaucoup plus compliqué.
C'est plus l'école coranique d'avant.
Absolument, ça a changé.
Elisabeth Crémieux.
Oui, je veux répondre à Catherine. Vous avez raison.
Qu'est-ce que j'ai dit,
Elisabeth ?
Il y a
eu un déficit d'enseignement des questions religieuses pour les enseignants, mais on en a pris conscience. L'éducation nationale en a pris conscience. Il y a eu plusieurs rapports qui ont été rendus, le rapport de Bray. Et aujourd'hui, dans les ESP, c'est-à-dire les écoles de formation des enseignants, on développe ce genre de formation, des enseignements sur les religions, des enseignements sur la laïcité pour les jeunes enseignants. Pour ceux qui sont déjà en fonction, il peut y avoir une formation continue, mais c'est moins sérieux. Mais moi, je dois dire que quand j'étais enseignante, j'abordais les religions par le biais de l'éthique. J'avais des classes très mélangé. Il y avait des élèves catholiques, des élèves musulmans, des élèves juifs, des élèves athées. Et lorsque j'abordais, par exemple, le Moyen-Orient, je disais, le Moyen-Orient, c'est le berceau de l'islam. Et je demandais toujours à mes élèves musulmans, pouvez-vous nous parler de votre religion? Et puis, si j'abordais au Moyen-Orient la question d'Israël, j'avais toujours un élève juif auquel je demandais, pouvez-vous me parler de votre religion? Et c'était tout à fait intéressant de voir que ils me disaient tous, ma religion me donne un guide, elle me donne une morale. Alors je demandais, quelle morale? Et c'était la même. Hein, que mes élèves soient juifs ou musulmans ou chrétiens, c'était exactement la même morale. Et ça créait, d'ailleurs je me souviens d'une classe où le juif pieux avait comme meilleur copain le musulman pieux. Ils se retrouvaient sur beaucoup de choses. Et je crois que la grande force de l'école publique, peut-être pas dans tous les quartiers, c'est qu'on y trouve des élèves mélangés. Et le mélange est en général une très bonne chose. Ils se connaissent, ils s'apprécient. Et je pense que ça fait tomber les tensions. Alors aujourd'hui, il y a de vrais problèmes, parce qu'il y a des quartiers où il n'y a plus que des élèves musulmans. On sait que de moins en moins d'enfants juifs vont dans les écoles publiques à cause des problèmes qu'ils y rencontrent. Mais pour moi, la force de l'école publique, c'est ça, c'est le mélange.
Marine Quenin.
Je voudrais revenir sur trois points. La question de la formation, il y a en effet une vraie demande des enseignants qui, pour une partie, on sent bien qu'ils ont besoin d'aborder ces questions-là, qu'il y a un vrai besoin de compréhension, d'en faire un sujet dont on peut parler et pas de façon hystérique comme on en entend parler majoritairement. Nous, on intervient majoritairement maintenant, plus en animant des ateliers en direct, mais en formation. C'est-à-dire en formation dans les SP, donc formation initiale des enseignants, mais c'est pas fait partout, loin de là. Et puis fait souvent de façon très théorique, c'est-à-dire qu'on va apporter des connaissances aux enseignants, mais concrètement, ils ont les connaissances, mais ils vont faire comment quand ils seront dans leur classe. On intervient en formation continue avec des enseignants en poste dans un certain nombre de villes à la demande de l'éducation nationale. Ça, c'est une chose. Donc, il y a un besoin de formation des enseignants et de formation pratique aussi. Leur donner les outils à la fois pour faire, quel lien avec mes programmes et comment je vais en parler, comment je vais gérer ces questions-là. Il y a la question du positionnement, ce que vous évoquiez, et notamment le rapport à la parole des élèves. C'est-à-dire que je suis un petit peu mal à l'aise, moi, avec la façon dont vous l'évoquiez. À savoir que ce qu'on va nous apporter aux enseignants, c'est de leur dire, vous allez en parler, vous êtes tenus à la neutralité dans le public, vos élèves, en revanche, ne sont pas tenus à la neutralité. Donc, ils vont s'exprimer. En revanche, veillez à ne pas les enfermer dans leur identité. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre qu'est-ce que tu en penses de ta religion, est-ce que quelqu'un dans la classe veut m'en parler? C'est-à-dire que l'idée de leur laisser la parole, de faire attention, veiller à ce qu'ils ne soient pas ne deviennent pas les experts de leur propre religion.
C'est-à-dire qu'on ne les désigne pas, c'est ça que ça veut dire.
Il y a deux choses. Il y a à la fois ne pas leur laisser la parole comme des experts, parce que c'est une forme de témoignage, c'est une pratique, mais on va travailler aussi sur la diversité interne, leur faire comprendre que le musulman, ça ne veut rien dire. Le juif, ça ne veut rien dire, parce qu'il y a des façons de faire extrêmement diverses, il y a des courants divers. Donc, tu puisses t'exprimer et témoigner d'une forme de pratique, c'est intéressant. Et par ailleurs, veiller à ne pas les assigner à cette identité-là. C'est-à-dire que c'est une ligne de crête qui est complexe à tenir pour pouvoir à la fois leur laisser la parole parce qu'ils ont envie d'en parler, en même temps ne pas les enfermer, justement parce qu'ils sont plusieurs choses et qu'ils ne sont pas que ça. Et je reviendrai juste à votre question préalable. Nous, on commence par savoir et croire. C'est-à-dire que vous avez besoin de poser les choses au départ, de savoir qu'est-ce que c'est le savoir, comment ça se construit, avec les hypothèses, avec des questions d'expérimentation, c'est ouvert à la contestation, ça change, ça évolue. Le croire ne relève pas du démontrable. Et c'est pas son objet. Et c'est pas grave. T'as pas à prouver que ta religion, elle est vraie ou elle est fausse. T'as pas à prouver que Dieu existe ou pas. Et à partir du moment où ça les brusque au départ, les élèves, c'est-à-dire qu'ils se sentent particulièrement heurtés quand vous commencez par là, mais ils s'apaisent au fur et à mesure en se rendant compte qu'en fait, on leur dit pas que ça relève du vrai ou du faux. C'est pas la question et on s'en fiche. Si c'est important pour toi et que t'y crois, c'est légitime. Et la laïcité, je reboucle, c'est justement ça. Ça laisse la possibilité de croire ou ne pas croire et d'en changer de conviction si tu le souhaites.
Alors, Elisabeth, vous aurez la parole tout à l'heure. Je rappelle que tout à l'heure, nous jouerons au grand quiz des religions aussi. Donc, c'est vous aussi qui jouerez, puisque c'est Yacine qui vous posera des questions. Spicuni, c'est jusqu'à 11h.
Spicuni revient dans un instant. Spicuni avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Spicuni pour spiritualité, culture et harmonie, ensemble jusqu'à 11h tous les week-ends sur Beurre FM le samedi matin, avec Yacine Ilmi qui est avec nous, et puis Catherine Escrive qui est journaliste et documentariste, Aïssa Boussena Mounir, enseignante et fondatrice des ateliers ATFAL, atelier ludo-éducatif pour enfants, Marine Quenin, déléguée générale de l'association Enquête, association qui a développé des outils pédagogiques que vous pouvez vous procurer d'ailleurs. Vous avez un site, quelle est l'adresse de votre site?
www.enquête.com. www.acora.asso.fr.
Elisabeth Crémieux, présidente de Acora, Apprendre, Comprendre, Respecter et Aimer, et Rivital Berger-Schloman, qui est la directrice de Talmud et Torah. Bien. Alors, vous avez souhaité réagir. Aïcha, vous vouliez répondre à Marine Quenin tout à l'heure.
Oui, alors, je voulais juste préciser, donc je rejoignais l'idée de dire qu'en fait, il ne faut pas faire des enfants des experts de leur propre religion, parce qu'en fait, on est confronté très souvent à des enfants qui eux-mêmes se cherchent. Puisqu'en fait, il y a plusieurs composantes de leur identité qui doivent marier de manière harmonieuse. C'est pas toujours évident. Par exemple, je prends mon cas, j'ai des jeunes musulmans qui vont à l'école publique, qui sont un peu perdus. Est-ce qu'ils sont français? Est-ce qu'ils sont, alors, très souvent d'origine maghrébine? Est-ce qu'ils sont musulmans avant tout? Est-ce qu'ils sont maghrébins? Donc, le fait d'en plus de les rendre experts, de devoir un peu prêcher leur religion, ça les enferme dans quelque chose pour lequel eux-mêmes sont pas aptes en fait encore à pouvoir apporter des réponses. Ouais. Oui, voilà.
Alors on a une bonne expérience et on a non seulement des femmes aujourd'hui dans l'émission, mais on a aussi des enfants et des petits-enfants, dont une jeune fille qui s'appelle Esther, qui est la petite fille de Elisabeth. Tu as quel âge, Esther?
J'ai 9 ans.
Et tu habites où?
À Bordeaux.
Donc Esther, en préparant l'émission, nous a dit qu'elle n'était pas baptisée et qu'elle allait quand même au catéchisme. Donc, pour quelle raison, Esther?
Parce que je voulais découvrir plus de choses sur la religion que j'aimerais pratiquer. Et parce que je faisais les scouts avant et aussi parce qu'à la fin de l'année, j'aimerais me faire baptiser.
Et qu'est-ce que tu faisais chez les scouts?
On parle des religions, des principales, des dieux et de l'histoire, surtout l'histoire chrétienne. Et voilà.
Merci Esther pour ton témoignage.
Bien. Après Jean-Pierre Foucault, Yacine, vous êtes un petit peu l'héritier naturel de Jacques Martin. Hein. Toutes les semaines, une nouvelle compétence acquise.
C'est un compliment de me comparer à Jacques Martin.
Ah ouais, culte. Elisabeth.
Alors, je voudrais dire que quand on demande à un élève de parler de sa religion, c'est jamais pour lui demander d'en être un expert. En général, ils sont assez contents, puisque dans l'enseignement public, on ne leur demande jamais. On ne les assigne pas du tout à une identité religieuse. On l'ignore. Et quand, par extraordinaire, le professeur d'histoire ou celui d'instruction civique ou n'importe, leur demande de parler de leur religion, ils sont très contents. Ils sont ravis d'en faire un petit peu la publicité, l'apologie. Moi, mes élèves étaient toujours ravis et personne n'était forcé. Dans une classe où il y avait 5 élèves musulmans, il y en avait un ou deux qui s'exprimaient.
Pas tous. Alors maintenant, comment est-ce qu'on parle de faire religieux avec les enfants, pédagogiquement, Rivital? Qu'est-ce que vous avez comme outil, vous? Raconter des histoires, comment vous faites?
Je trouve que déjà, les outils pédagogiques aujourd'hui, c'est par rapport de choses que Marine a parlé, c'est qu'ils sont beaucoup plus avancés aujourd'hui. On travaille avec des enfants qui sont, une génération de 2018, qui n'ont pas les différentes questions, mais ils ont les différents besoins par rapport aux outils pédagogiques. Et ça veut dire que, oui, il y a l'enseignement classique, la lecture des histoires bibliques, mais que les professeurs aujourd'hui, ils ont demandé d'être beaucoup plus doués en utilisant aussi le site de e-Talmud qui permet aux enfants de continuer le tout à la maison avec leurs parents. Donc je voudrais seulement ajouter un petit point qui est important pour comprendre aussi le défi pour les professeurs aujourd'hui. La plupart de nos professeurs au Talmud Torah sont des professeurs qui étaient une fois, dans mon cas il était il y a beaucoup d'années, mais beaucoup de professeurs sont entre 20 et 30 ans, étaient des élèves aussi de notre Talmud Torah. Ça veut dire que c'est parfois 12e ou 3e génération aussi des enseignants de Talmud Torah et qui sont leur source d'études, étaient déjà la communauté pluraliste.
Mais est-ce que votre façon d'enseigner a changé au fil des années?
Bien sûr. Si je parle avec vous déjà, moi je suis 8 ans dans cette Talmud Torah, quand j'ai commencé mon travail, je commençais avec le livre classique, l'enseignement classique, la lecture avec les enfants, en posant des questions, en faisant aussi des activités ludiques de temps en temps. Aujourd'hui, on travaille beaucoup plus par rapport de questions des enfants, on donne les outils pédagogiques de e-Talmud, mais aussi beaucoup des activités avec d'autres, avec des autres enfants, et le plus l'expérience qui pas changé mes opinions par rapport à la religion, mais qui ajoutait beaucoup de joie personnelle pour moi comme un pédagogue, c'était avec les enfants de Yacine, la grande famille de Sévran, qui sont arrivés chez nous l'année dernière pour faire deux ateliers. Un, c'était un atelier de calligraphie, d'expliquer les enfants, en effet, qui connaissent peut-être la langue arabe, la calligraphie arabe, ou les enfants juifs qui connaissent la calligraphie hébraïque, qu'en effet, on parle d'une langue, de deux langues qui sont très très proches et qui partagent beaucoup d'identité et qui lient avec l'identité des enfants. La deuxième expérience était cette célébration de, autour de fête de Pessah. Imaginez-vous, nous sommes autour de grandes tables, les enfants musulmans, les enfants juifs, et ils chantent une liturgie particulière ensemble. Peut-être ça, c'est notre avantage, c'est notre offre pour l'avenir de l'éducation religieuse. De
le partage, ensemble, voilà.
Le partage.
Aïcha, qu'est-ce que vous utilisez comme outils ludo-éducatifs?
Alors, moi, je travaille avec trois tranches d'âge principales. Donc, on a les tout petits, les 3-6 ans. On a les 7-10 ans à peu près, donc ça correspond un peu à la primaire. Et puis, on a les ados, donc collège et lycée. En fonction de l'âge, c'est des méthodes différentes. Avec les adolescents, par exemple, qui est une tranche d'âge qui est un peu délicate, on va beaucoup utiliser le dialogue. On les écoute d'abord. C'est la pédagogie par l'écoute. On les écoute. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Et généralement, ils ont beaucoup de choses à dire. Et ensuite, on parle. On arrive à déconstruire parfois des préjugés, des croyances limitantes, etc., liées à la religion. Ensuite, avec ceux qui ont entre 7 et 10 ans, on va utiliser des choses concrètes parce qu'ils ont besoin de concret. La religion, c'est très théorique. Ils ont besoin de voir concrètement qu'est-ce que ça apporte de faire la prière, par exemple. Qu'est-ce que ça apporte de faire de jeûner le mois de Ramadan, etc. Et puis avec les tout petits, c'est de l'éveil à la foi. Donc à 3 ans, on peut pas exiger entre 3 et 6, on peut pas exiger d'un enfant qu'il ait qu'on lui enseigne une foi, on fait de l'éveil. On explique qui est Dieu, qu'est-ce que le Coran, des choses comme ça.
Catherine.
Oui, moi je voulais réagir à ce que disait Aïcha et je reviens toujours à notre rôle d'observation plutôt en tant que journaliste et documentariste. Mais Aïcha a parlé de cette idée de faire participer toutes les sciences à la transmission également du fait religieux cette fois.
Tout à fait.
Pas d'une religion. Et ça, j'ai remarqué chez les adolescents que nous avons pu rencontrer, notamment dans un établissement public de l'Académie de Créteil, qu'il y avait un énorme besoin de recontextualisation des faits contemporains, très souvent, et aussi de revenir sur l'histoire de l'immigration au sein de notre pays. Et je pense que si ce travail-là, historique, de transmission de l'histoire de notre propre pays par rapport aux immigrés, aux personnes immigrées, j'ai l'impression que ça bloquera toujours, non ?
Elisabeth Crémieux.
En tant que professeur d'histoire, donc.
Oui, non, mais vous, qu'est-ce que vous avez utilisé comme outil ludo-éducatif ?
Alors, dans les classes où j'enseignais, on n'était pas tellement dans le ludo. On était plutôt
dans l'éducatif.
On était dans la préparation des examens et des concours. Non, moi j'avais des élèves beaucoup plus grands que ça et qui avaient déjà construit beaucoup de connaissances et qui avaient ou qui n'avaient pas la foi. Et donc, je les laissais débattre, présenter ce qu'ils savaient ou ce qu'ils croyaient à leurs camarades. Mais j'avais des élèves qui avaient plus de 16 ans. C'est un autre univers.
Oui, c'est pas là. Oui.
C'est une autre pratique. Mais on débouche quand même, Aïcha, sur l'enseignement de la religion. Ça pose un vrai problème dans l'enseignement public. Je donne un exemple. On parlait de Pessah, qui est une. Pessah, c'est ça fête la sortie des Hébreux d'Égypte. Les historiens n'ont trouvé aucune preuve de la présence des Hébreux en Égypte. Donc ce n'est pas du tout un fait historique, c'est un fait religieux. Et c'est très difficile, on ne peut pas enseigner à l'école publique des croyances qui ne sont pas vérifiées par la connaissance. C'est là est une des grandes difficultés.
Bien, on va jouer ensemble. Yacine, là vous allez changer de rôle, donc c'est le grand quiz des religions, et donc vous avez des questions auxquelles vous essayez de répondre. Première question, Yacine.
Donc, première question, quel est le discours religieux, ou c'est un mot à trouver, hein, le discours religieux qui veut prouver une religion ou des faits religieux par la science, c'est-à-dire...
Oui. Alors, si vous avez compris la question de Yacine, lancez-vous.
Prouver une religion par la science, sur des faits, sur l'eau, les montagnes, le cerveau, l'embryon, etc., etc.
Catherine, parce que c'est que là, je me tourne vers Catherine.
C'est horrible pour moi, ce quiz, ça me stresse. Donc...
Marine Quenin, vous connaissez la réponse ?
Le concordisme.
Ah, le concordisme.
Parce qu'on travaille, quand on travaille aussi avec des ados, et il y a souvent des choses à questionner sur la question du concordisme qui essaye de prouver l'existence. Enfin, c'est cette histoire de croire et savoir. C'est-à-dire que le besoin de se dire, j'ai besoin de prouver que ma foi ou ma religion est réelle, et donc du coup d'apporter des preuves.
C'était donc concordisme. Qu'est-ce qu'il y a ? Ne commencez pas à râler, Elisabeth. Qu'est-ce
qu'il
y a ?
Non, mais je trouve que la question posée par Yacine était un peu compliquée.
Bon, la même chose, c'est le principe.
J'ai bien compris, non plus.
Bon, Yacine, deuxième question. Rattrapez-vous sur une deuxième question.
Donc une question très simple.
C'est une question auquel vous pouvez répondre.
Si on répond pas, ça va être horrible.
Comment désigne-t-on dans la religion chrétienne l'instruction des doctrines et de la foi chrétienne aux enfants ?
La pastorale.
Le
catéchisme. Bravo.
C'est Aïcha, le catéchisme.
Chrétien, en fait.
Le catéchisme.
Alors, qui peut expliquer ce qu'est le catéchisme en 30 secondes ?
Bah, vous battez pas.
Bah, c'est la transmission de la foi catholique, en fait, pour les catholiques.
Comment ça se présente au cours
Déjà, la lecture des évangiles.
Est-ce que c'est des cours qui se font pour les enfants
Alors, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut prendre, alors, pour la pastorale au collège, par exemple. Ça peut partir de la lecture des évangiles, de la réaction des enfants, de certains commentaires. Mais ça peut aussi passer par des rassemblements de ces jeunes, par des célébrations, évidemment.
Troisième question, Yacine.
Troisième question, comment appelle-t-on l'instruction religieuse donnée aux enfants juifs ?
Il y a doute, le judaïsme.
Est-ce que
tu as des questions sur Moïse ?
L'enseignement de Talmud Torah ?
L'enseignement de Talmud Torah aussi.
Exactement.
Alors, quelle était la bonne réponse, Yacine ?
Le Talmud Torah.
Talmud Torah.
Qu'est-ce que le Talmud Torah, Révital, en 10 secondes ?
Le Talmud Torah, déjà, Torah. Voilà, le 5 premiers livres de la Bible, et le Talmud, hein, la racine, l'ilmod, apprendre en hébreu. Le Talmud était aussi, voilà, le texte qui sont arrivés après la Bible. Et que le Talmud Torah, c'est une maison, n'importe quelle affiliation, qui donne les enfants, comme les adultes, l'opportunité d'apprendre sur les questions du judaïsme, sur les histoires bibliques et les traditions.
Allez, dernière question rapidement, Yacine.
Dernière question, comment appelle-t-on le monastère ou ce qui se trouve au centre du monastère des traditions bouddhiques ?
Alors, tiens, je vois Marine Quenin qui se demande de quoi il s'agit.
C'est un mot qui fait un
On a perdu Elisabeth, on a perdu Aïcha aussi.
Peut-être dans la boîte.
C'est un mot qui a été inventé par les Portugais et installé en Inde. Il désigne aussi dans le monde chinois un monument bouddhiste à destination.
Rivita, vous pensez à quoi ?
J'ai pensé de la pagode à.
Yes. Effectivement, c'est bien la pagode.
Vous pensez à la pagode et vous pensez bien, Rivita. C'était compliqué, hein, mine de rien, vos questions simples, Yacine.
Catéchisme, Talmud Torah, pagode.
Est-ce qu'il y a des questions sur Moïse ?
C'était la précédente.
C'était la précédente émission. On rappelle que vous pouvez donc, si vous voulez jouer chez vous, vous procurer cette boîte qui s'appelle le Grand Quiz des Religions, Marine.
Tout à fait, disponible dans toutes les bonnes librairies.
Et qu'est-ce que l'arbre à défi ?
L'arbre à défi, c'est un outil créé pour les enseignants de cycle 3, donc la fin de l'école élémentaire, pour aborder les questions de faits religieux en cohérence avec les programmes.
Et qu'on peut se procurer sur Internet.
Merci, Elisabeth.
C'est bien. Merci à toutes d'avoir été avec nous sur ce plateau ce matin. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous retrouve donc samedi prochain à 10h pour une autre émission.
Retrouvez Speak Uni tous les samedis de 10h à 11h et en podcast sur Beurre FM et l'appli Beurre FM.